Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver et de vous embarquer en vadrouille. Ensemble, on va écouter le monde changer grâce au correspondant d'Europe 1, à un auditeur, Bernard, qui est au Vietnam et qui nous a contactés, et aussi avec quelques invités qui nous aideront à décrypter ce qui se passe sur notre planète. Alors que la pandémie éprouve si durement toutes les économies du monde, certaines voix en coulisses commencent à opposer la relance et la lutte contre les changements climatiques, à suggérer que la transition écologique programmée peut bien attendre. On va en parler avec notre correspondante Isabelle Bellori, qui a enquêté dans les arcanes européennes, et avec François Gemène, politologue et expert climat. Ce même climat qui a favorisé la prolifération des criquets pèlerins dans toute la corne de l'Afrique. Un fléau qui prend une ampleur effrayante, vous l'entendrez, aggravé encore par l'épidémie de Covid-19. Ces combats sont tous urgents, tous vitaux. Elisabeth Birx, porte-parole du Programme Alimentaire Mondial, nous dira que sur le terrain, on craint que le phénomène de malnutrition sévère ne double dans le monde et dépasse les 250 millions de personnes d'ici la fin de l'année. On ira aussi au Vietnam, ce voisin de la Chine qui compte officiellement zéro mort du coronavirus. On va vous raconter comment sont identifiées puis isolées de manière très stricte toutes les personnes à risque. Et du coup, avec le politologue Bruno Tertrais, on se demandera si les régimes autoritaires font mieux que les démocraties face à l'épidémie. Au chapitre du déconfinement, on suivra Nicolas Carreau dans le terrier d'un lapin blanc en redingote et montre à gousset. L'histoire a plus de 150 ans, pourtant on suit toujours le lapin. Enfin, Joseph Chovanec se penche sur les restrictions de circulation qui empêchent parfois de se mouvoir dans son propre pays. Les carnets du monde sont ouverts et on file à Bruxelles.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Est-ce que le coronavirus va avoir la peau de la lutte contre le réchauffement climatique? C'est une partie qui se joue pour une bonne part en ce moment au niveau de l'Union européenne. Avant que le virus ne débarque et provoque la crise sanitaire et économique qu'on connaît aujourd'hui, la grande priorité de la nouvelle Commission européenne, c'était le Green Deal, le pacte vert. Mais beaucoup craignent que cette priorité ne soit remise en cause ou du moins très affaiblie. Pour en parler, on rejoint Isabelle Horry à Bruxelles. Bonjour Isabelle.
Bonjour Sophie.
Alors rafraîchissez-nous un peu la mémoire peut-être pour commencer. Le Green Deal, en quoi ça consiste exactement?
Eh bien c'est une stratégie politique globale qui doit être mise en application par tous les pays européens pour que l'Europe devienne le continent modèle pour la réduction des gaz à effet de serre. Alors cette stratégie s'applique au transport, l'énergie, l'industrie, le logement, l'agroalimentaire, même la finance est censée devenir verte. Ce grand plan devait occuper la Commission pendant tout son mandat de 5 ans. Ursula von der Leyen, sa présidente, en avait présenté les grands axes le 11 décembre. C'était prévu qu'il soit décliné en de nombreuses lois. Le 4 mars, la première loi avait d'ailleurs été présentée. C'est la loi climat. Elle fixe à l'Union européenne l'objectif d'être neutre en carbone à l'horizon 2050.
Alors ça, c'était quelques jours avant le confinement des deux premières régions en Italie. Ça semble désormais très loin. Depuis, les priorités ont été un peu bousculées. Alors, est-ce que cette ambition environnementale est encore réaliste?
Il y a beaucoup de craintes et ça se comprend parce que l'Europe plonge dans une crise économique terrifiante. La récession pourrait atteindre 12% du PIB dans la zone euro. 12% a indiqué cette semaine la Banque Centrale Européenne. Des dizaines de millions d'Européens sont au chômage ou au chômage technique. Est-ce que les budgets qui devaient permettre la transition écologique via l'investissement, la recherche ou des subventions, est-ce qu'ils ne vont pas être engloutis rien que dans le soutien de l'emploi? On voit déjà tous les secteurs industriels tirer la sonnette d'alarme. Et d'ailleurs, certains projets de recherche emblématiques ont déjà été arrêtés, comme celui du prototype d'avion hybride d'Airbus et de Rolls-Royce.
Mais est-ce que pour autant, Isabelle, l'industrie européenne remet ouvertement en cause cette transition?
C'est plus compliqué et plus subtil. Alors officiellement, non, les représentants de l'industrie, la main sur le cœur, affirme qu'il faut continuer à se battre pour le climat. Écoutez par exemple le patron de Volkswagen, Herbert Diess, il y a quelques jours à la télévision allemande.
Nous sommes dans une situation historique unique parce que nous pouvons à cette occasion contribuer grandement à la protection de notre environnement. Nous avons évidemment les filières spécifiques de construction de voitures électriques, de voitures hybrides, mais dans l'ensemble, toute la flotte automobile est plus propre. La nouvelle génération des diesels, la nouvelle génération des voitures à essence, nous pouvons accélérer massivement la lutte contre le réchauffement climatique si nous vendons mieux les véhicules déjà produits cette année.
Voilà, si je résume, oui, nous pouvons continuer à être verts, mais aidez-nous quand même à vendre nos voitures propres.
Oui, propre, mais quand même au diesel ou à l'essence. En fait, il est en train de réclamer une prime à la casse.
Exactement, alors que ça fait 12 ans que les constructeurs savent qu'en 2020, il faudra émettre 95 grammes de CO2 par kilomètre pour les voitures en moyenne. En fait, le patron de Volkswagen instrumentalise la crise du coronavirus pour pousser son agenda. Et il est loin d'être le seul. La Commission européenne est assaillie de courriers ces jours-ci. Tous les lobbies demandent des moratoires ou des reports de législation. L'automobile, l'aérien, les PME, le gaz, le plastique, l'agroalimentaire et j'en passe. L'équivalent européen du MEDEF aussi. Écoutez ce qu'en dit Lala Akoumadachi. Elle travaille pour CIO, c'est l'ONG qui décrypte l'activité des lobbies européens.
Dans ces différents courriers, il est dit toujours en introduction qu'évidemment Business Europe, donc le patronat, est de manière générale complètement en soutien aux différentes initiatives liées au pacte vert européen, que voilà, on peut compter sur son soutien. Néanmoins, on estime vraiment qu'en ces temps de crise, il faut vraiment se concentrer sur des régulations liées à la crise économique et donc tout ce qui n'est pas nécessaire et qui pourrait représenter des charges supplémentaires pour les entreprises, comme par exemple des objectifs d'émissions de CO2 qui devait être décidé donc en septembre, devrait être repoussé dans X temps. Voilà, donc si vous voulez, il y a une contradiction totale entre l'espèce de déclaration générale politique et concrètement ce que demande cette industrie.
Dans le collimateur, il y a entre autres les normes du CO2 des voitures, la loi climat donc, ou encore la stratégie de la ferme à la fourchette qui va concerner l'agriculture et l'agroalimentaire et qui déjà a été retardée d'ailleurs.
Et comment réagissent les politiques alors par rapport à ces pressions? Est-ce qu'ils se laissent convaincre?
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le confinement, c'est quand même plus difficile de savoir quels sont en ce moment les contacts entre les décideurs et les lobbies. L'état-major de la Commission européenne est censé rendre public ses rendez-vous, mais voilà, là, les agendas sont remplis avec beaucoup de retard et souvent de façon très succincte, selon CIO, l'Observatoire des lobbies. Ceci dit, à en croire les déclarations publiques, tous sont à 100% derrière le Green Deal. Ursula von der Leyen affirme que la préoccupation environnementale doit être une boussole pour transformer la crise en chance. La chancelière allemande Angela Merkel soutient les objectifs de réduction de gaz à effet de serre pour 2050. Et Frans Timmermans, le numéro 2 de la commission en charge du Green Deal, a promis de ne rien lâcher lors d'une audition virtuelle au Parlement européen.
Ne tombons pas dans le piège de penser que le Green Deal est un luxe que nous ne pouvons pas nous offrir. Je crois que c'est une bouée de sauvetage pour nous sortir de la crise. Bien sûr, nous allons tenir compte de ce qui arrive à l'industrie. Bien sûr, nous allons développer des approches par secteur pour les aider. Mais certains voudraient utiliser l'excuse du Covid pour ne pas mettre en œuvre ce qui doit l'être de toute façon. Ne tombons pas dans le panneau. Je n'ai pas du tout apprécié de recevoir une lettre, par exemple, qui me disait que comme on a besoin de plastique dans le secteur de la santé, bien, il faudrait revenir sur l'interdiction de certains objets en plastique à usage unique. Il n'y a aucun rapport entre les deux.
Voilà, Frans Timmermans, le numéro 2 de la Commission. Vous disiez, Isabelle, vous aussi, tout à l'heure, que le lobby du plastique s'était manifesté.
Ah oui, et leur lettre est effectivement l'une des plus incroyables. En invoquant l'hygiène et la santé, ils demandent un an de plus pour appliquer la législation européenne qui interdit notamment les pailles et les couverts en plastique jetables à partir de 2021. C'est vrai qu'on voit pas trop le rapport avec le coronavirus.
Non, vraiment pas. Mais le Green Deal, alors comme boussole ou comme bouée de sauvetage, ça veut dire quoi concrètement? Comment les Européens comptent-ils s'y prendre?
Leur espoir, c'est que l'économie verte crée les nouveaux emplois. L'argent des plans de relance devrait être utilisé non pas pour reconstruire l'économie comme elle était, mais au contraire pour accélérer la transformation. Prenons l'exemple de l'aérien. Alors en ce moment, les avions sont cloués au sol. Est-ce qu'il faut tout faire pour que le trafic aérien reprenne comme avant? L'écologiste Karim Adeli, qui préside la commission transport du Parlement européen, pense au contraire qu'il faut repenser la mobilité.
Il faut aussi penser à un plan réel de prospective de reconversion des salariés qui vont passer du secteur de l'aviation au secteur, par exemple, du train. C'est ce qui s'est passé notamment dans les pays du Nord, notamment la Norvège, où énormément d'avions ont été arrêtés. C'était entre 600 et 1200 kilomètres. On a mis des trains à la place, notamment des trains de nuit. Il y a eu une baisse du trafic, mais il y a eu une augmentation pleine, notamment des emplois dans le secteur du train. Donc vous voyez, si dans un secteur comme l'aviation, on perd des emplois, dans d'autres secteurs, l'appui positif va être énorme. Mais tout ça, il faut l'accompagner de prospectives, il faut l'accompagner d'investissements réellement durable et surtout à investir dans la formation.
Voilà, d'ailleurs, Bruno Le Maire, en échange des 7 milliards d'euros d'aide du gouvernement, a demandé des engagements environnementaux à Air France, comme la réduction des vols intérieurs, là où le train existe justement.
Voilà, ça c'est une piste. Les États et l'Union européenne vont sauver de nombreuses entreprises, hein, via des prêts à faible taux ou via des subventions. Mmh. Il faut systématiser ces contreparties. William Todds, qui dirige l'ONG Transport et Environnement, propose de s'inspirer de ce qu'avait fait le président américain Barack Obama lorsqu'il a été confronté à la crise en 2009.
Quand Obama est devenu président, un des plus grands problèmes, c'était quoi faire avec General Motors. Ils étaient presque en faillite. Il a dit, OK, oui, je vais sauver General Motors, on va lui donner beaucoup d'argent, mais on va demander qu'il change de modèle. Il a dit à General Motors de faire des grands investissements dans la voiture électrique, les voitures hybrides, aussi de soutenir les normes CO2 que Obama a introduit 2 ans plus tard. Et donc, c'est ça un peu le modèle qu'on doit suivre en Europe aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des grands problèmes aujourd'hui et ils ont besoin d'aide, mais il faut avoir des conditions parce que on peut pas sortir de la crise de la même façon qu'on l'a commencé.
Alors, c'est très intéressant tout ça, Isabelle, mais est-ce que ça peut se concrétiser?
J'ai parlé à beaucoup de gens pour préparer ce dossier et alors tout le monde a un avis divergent. Alors mon sentiment, c'est que les dés ne sont pas jetés, que nous sommes encore en pleine bataille. Les lobbies poussent leurs intérêts, c'est le jeu. Les défenseurs de l'environnement essayent de crier encore plus fort et les politiques, eux, ils n'ont pas encore tranché.
Et alors ils vont trancher quand? Quel est le calendrier?
Eh bien, tout le monde attend le nouveau projet de budget européen sur 7 ans que Bruxelles doit présenter dans 2 ou 3 semaines. Ça va être l'outil de la relance. On va voir à quel point il est orienté vers la transition écologique. Finissons sur une note optimiste avec William Todds de Transport et Environnement. Lui, il veut croire que 2020, ce n'est pas 2008. À l'époque, la crise financière n'avait pas permis de changer de modèle en Europe. Il veut croire que cette fois-ci, les circonstances sont différentes.
La grande différence avec 2009, c'est que maintenant, on a des leaders très différents et le contexte est complètement différent. On a Ursula von der Leyen, qui est présidente de la Commission, qui a dit la priorité la plus importante pour l'Europe, c'est le Green Deal. Mais en France, on a Macron. En Espagne, on a Sanchez, on a Conte, en Italie, il y a toujours Merkel. Et je pense qu'avec ce groupe de leaders, avec le contexte qui est vraiment très différent avec les technologies, par exemple la voiture électrique, qui sont beaucoup plus avancées qu'il y a 10 ans, il y a une opportunité énorme.
Des opportunités énormes à suivre donc dans les prochaines semaines, avec cette impression qui ressort très fort que nous sommes à un tournant. Est-ce qu'on saura le négocier, ce virage? Eh bien, on va poser la question dans un tout petit instant à François Jemaine. Il est chercheur, spécialiste de la gouvernance du climat et membre du GIEC. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir si bien posé les jalons. À très vite dans les carnets.
À bientôt, Sophie.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
13h16, la suite des carnets du monde où l'on évoque 2 combats qui pourraient s'entrechoquer, celui contre le coronavirus et celui contre les changements climatiques. Sophie Larmoyer, votre invitée spécialiste des questions de géopolitique, de l'environnement et des migrations.
Bonjour François Jemaine.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1 aujourd'hui. Vous êtes spécialiste de la gouvernance du climat et membre du GIEC, le groupe international d'experts sur l'évolution du climat. On vient d'évoquer avec Isabelle Horry à Bruxelles ce contexte particulier, avec cette récession terrible et mondiale provoquée par l'épidémie de coronavirus et qui induit cette question. La transition écologique sera-t-elle sacrifiée au prétexte qu'il y a plus urgent, plus important, plus vital? C'est une crainte que vous avez, vous n'êtes pas très optimiste.
Je ne suis pas très optimiste en effet. J'ai envie de dire qu'à l'heure actuelle, ça peut encore basculer d'un côté ou de l'autre et qu'il y a des tractations intenses qui se jouent pour le moment, soit dans les coulisses de l'Union européenne, soit dans les coulisses des différents gouvernements. Et qu'effectivement, d'un point de vue économique, on est face à une crise terrible qui va amener une récession, malheureusement de longue durée, je le crains. Mais c'est aussi l'opportunité de remettre à plat un certain nombre de fondements de l'économie et de faire émerger une économie décarbonée. La question, c'est de savoir si les gouvernements seront prêts à résister à toute une série de pressions de lobby, parce que pour le moment, la crise est aussi et surtout un prétexte à une offensive de grande ampleur contre les mesures de protection de l'environnement et du climat en particulier.
Vous trouvez qu'il y a peu de voix qui se font entendre aujourd'hui pour dire attention, n'oublions pas cette transition écologique?
On sent qu'il y a un foisonnement d'idées, de groupes de travail, d'appels et de manifestes qui appellent à un monde d'après. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de résistance à l'heure actuelle aux lobbies qui cherchent quelque part à utiliser la crise pour s'affranchir d'un certain nombre de règles et de mesures. Et donc je trouve par exemple que les associations environnementales devraient bien davantage faire entendre leur voix et alerter sur cette offensive à grande échelle.
Ces appels dont vous parlez, des initiatives, il y a des tribunes de différents groupes de députés, de citoyens, effectivement, il y a aussi ces signes positifs, ces engagements réitérés, on l'a entendu, de la Commission en faveur du Green Deal. Vous craignez que ce ne soit que des paroles et que ça ne résiste pas aux pressions contraires, c'est ça ?
Je crains qu'il y ait deux types de pressions qui s'exercent dès qu'on sera sorti du confinement, à la fois des pressions qui poussent à ce qu'on utilise la crise comme une opportunité de faire émerger une économie décarbonée, et d'autre part, les aspirations de beaucoup, y compris parmi la population, des aspirations légitimes, à retrouver simplement leur monde d'avant. Et il est certain que dans une crise, le passé a toujours un aspect rassurant, tandis que le futur est incertain. Et donc le grand défi politique, je crois, ça sera de faire en sorte que le futur décarboné apparaisse comme désirable et tangible, surtout à ceux pour qui la première aspiration serait de retrouver leur monde d'avant.
C'est ça, parce qu'il ne faudrait pas que la transition écologique et la transition vers une économie plus décarbonée apparaissent comme quelque chose où il faudrait encore faire des sacrifices, parce que dans la situation actuelle, ça ne sera pas accepté, ça ne sera pas acceptable.
Bien entendu, et ma crainte à moi, c'est que si on continue à dire que la période actuelle est bonne pour le climat ou bonne pour l'environnement, ou qu'il faudrait demain mettre en place le même type de mesures pour lutter contre le changement climatique que celles qu'on met aujourd'hui en place pour lutter contre le coronavirus, eh bien je crains que cela ne crée dans la population un phénomène de rejet épidermique de ces mesures, qu'au fond on se dise « Attendez, on a déjà donné contre le coronavirus, on va pas en plus en remettre une couche contre le changement climatique.
Oui, »
Personne
ne
se souviendra de l'époque du confinement comme une époque agréable où on luttait efficacement contre le changement climatique.
Mais quand même, François Jomène, à la faveur, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, de cette crise sanitaire, on a vu se passer beaucoup de choses en quelques semaines qui étaient improbables avant. Des choses très ponctuelles, malheureusement, comme la baisse spectaculaire des émissions de gaz à effet de serre pour 2020, ou encore ces images sympathiques qui circulent d'animaux qui s'invitent là où les humains ont déserté. Mais on a aussi vu qu'on pouvait faire des visioconférences plutôt que de prendre l'avion pour une réunion, travailler autrement. On a vu que face à l'urgence, les gouvernements étaient capable de débourser des milliers de milliards de dollars ou d'euros et de s'asseoir sur des règles qui semblaient intangibles, de maîtrise du déficit. Pourquoi en serait-il autrement pour la transition écologique ?
Tout à fait. Je pense qu'il y a quand même des leçons importantes à tirer de cette crise. Ce qui me paraît véritablement pouvoir servir de leçon, c'est deux choses. D'abord, la preuve qu'il est malgré tout possible de prendre des mesures urgentes, radicales et extraordinairement coûteuses pour protéger des vies, pour protéger les plus faibles, les plus âgés, les plus vulnérables, et que donc face à un danger immédiat, nous sommes capables de prendre ce type de mesures. La question, c'est évidemment de savoir pourquoi nous ne voyons pas encore le changement climatique comme un danger immédiat. Et l'autre grande leçon, c'est aussi sur la solidarité incroyable qui s'est exprimée dans nos sociétés. Et donc, alors qu'on a tellement dit qu'on faisait désormais passer le profit avant l'humain, etc., on a fait exactement le contraire. On a créé une crise économique artificielle pour protéger les plus vulnérables. C'est une formidable leçon de solidarité. Voyons comment nous allons pouvoir nous en inspirer pour la déployer au-delà de nos frontières, puisque les premières victimes du changement climatique, elles se trouveront dans les pays en développement.
Et justement, François Jomène, comment faudrait-il rebondir sur cette crise aujourd'hui pour mener finalement tous ces combats de front ? Est-ce que ces milliards investis aujourd'hui pour sauver l'économie, est-ce qu'ils peuvent être une opportunité ? Est-ce qu'on peut les orienter vers une économie plus verte ?
Je pense que oui. Avec ces milliards et ces plans de relance, les gouvernements vont disposer à nouveau d'un instrument très important, gigantesque, de planification de l'économie. Ça faisait des années que, quelque part, on se lamentait que les gouvernements aient abandonné à la mondialisation et au néolibéralisme les instruments de contrôle de l'économie. Ils vont, cette fois-ci, en retrouver la maîtrise. Ils vont retrouver une forme de planification économique. Et donc, je pense qu'ils peuvent se saisir de cette opportunité à la condition que l'argent, que les milliards qu'ils vont injecter dans l'économie soient pas seulement le sauvetage de l'économie d'avant, mais soient aussi un investissement vers l'économie de demain.
Ouais, vous dites que la crise, finalement, a fait un peu le sale boulot en mettant un paquet de gens au chômage et que, quitte à recréer des emplois, autant créer des emplois verts.
Effectivement, on va se diriger vers un chômage massif. Il y a déjà des plans de licenciement qui sont annoncés. Et les entreprises qui ont été particulièrement touchées par cette crise, ce sont des entreprises qui dépendaient des énergies fossiles. Et donc, je dirais qu'il y a maintenant une responsabilité collective d'investir dans un grand plan de formation professionnelle pour faire enfin émerger ces emplois verts dont on parle depuis si longtemps, j'ai envie de dire que ce qui empêchait jadis l'émergence des emplois verts, c'était beaucoup ce qu'on appelle les emplois bruns, c'est-à-dire les emplois dans les industries qui dépendaient des énergies fossiles.
Oui, parce qu'il fallait les sacrifier.
Parce qu'il fallait quelque part les sacrifier pour permettre la création de nouveaux emplois. J'ai envie de dire que un grand nombre de ces emplois vont disparaître du fait de la crise. Il faut maintenant pouvoir créer ces emplois verts.
Merci beaucoup François Gemène pour cet éclairage sur un enjeu majeur qui se joue peut-être en partie à l'occasion de cette crise sanitaire, c'est ce qu'on comprend.
Tout à fait, et dans les coulisses, c'est pour ça qu'il est important d'en parler.
Dans les coulisses. Je rappelle que vous faites partie des experts du GIEC sur le climat, vous êtes chercheur à l'université de Liège en Belgique et vous enseignez aussi à Bruxelles et à Sciences Po Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Avec plaisir.
Europe 1, les carnets du monde.
Demain s'écrit aujourd'hui et certains récits écrits hier, au siècle dernier parfois, ou même avant, nous plongent dans des mondes imaginaires. Un livre dans le monde, c'est la parenthèse littéraire des carnets avec vous Sophie Larmoyer et vous Nicolas Carreau.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Vous continuez à fouiller dans votre coffre au trésor, celui des classiques de la littérature internationale, et vous avez choisi un roman britannique aujourd'hui, alors qui permet de quitter le confinement et de s'évader de bien des façons, surtout des façons surréalistes, c'est Alice au pays des merveilles.
De Lewis Carroll, effectivement, le titre complet, c'est « Les aventures d'Alice au Pays des Merveilles », on l'oublie toujours. Mmh. Le livre a été publié en 1865, c'est en fait une histoire que Lewis Carroll a écrite pour une petite fille, Alice Liddell, et qui donc a donné son prénom à l'héroïne. Dans l'histoire, Alice s'ennuie ferme, il fait chaud, elle est dehors sur la pelouse avec sa sœur qui, elle, est occupée à lire, mais à quoi bon lire un livre sans images, se dit Alice. Heureusement, un lapin blanc passe par là. Devant elle, il sort de sa redingote une montre à gousset et s'exclame exactement, mais c'est pareil dans le livre. Alice est intriguée, elle court après, il rentre dans son terrier, elle le suit sans se demander comment elle ressortira. Au début, le terrier est bien droit, mais d'un seul coup, il se transforme en puits et Alice tombe à pic. La chute est vertigineuse, elle chute pendant des kilomètres, mais tout à coup, pouf, elle tombe sur un tas de feuilles sèches et s'en sort sans le moindre mal.
Et c'est là que ses aventures commencent.
Et oui, elle boit d'abord une potion qui la fait rapetisser, puis elle grandit démesurément au pays des merveilles. Plus rien n'est logique, tout peut arriver. Elle va y rencontrer des personnages incroyables, comme le chapelier fou, toujours en train de boire son thé, ou la méchante dame de cœur, et tout le jeu de cartes, le roi, le valet, etc. La dame de cœur, vous vous souvenez, qui veut couper la tête d'Alice. Finalement, elles vont jouer au criquet, mais les boules sont remplacées par des hérissons et les maillets par des flamants roses.
Et le personnage d'Alice est très attachant.
Et oui, Alice nous emmène avec elle dans ses aventures. On ne la lâche plus, elle devient l'amie de ses lecteurs. C'est le cas pour Amélie Nothomb, par exemple, qui le relit régulièrement et a signé la préface du manuscrit du livre édité par les éditions des Saint-Pères.
Alice elle-même est une héroïne formidable. Elle a toutes les vertus que j'aime. Elle est curieuse, elle est intelligente, elle est spirituelle, elle est vive. Elle n'est pas d'une fragilité ridicule de petite fille, c'est au contraire une petite fille courageuse et frondeuse. Donc je trouve que c'est une magnifique héroïne, une magnifique petite fille dont tout le monde devrait s'inspirer.
Et Amélie Nothomb s'en est inspirée dans ses propres livres ?
Eh bien oui, d'une certaine façon oui.
Je n'ai pas du tout la prétention d'écrire aussi extraordinairement subtilement que Lewis Carroll. Mais je pense quand même que malgré tout, j'ai attrapé quelque chose de cette lecture, c'est-à-dire que on ne peut pas écrire de façon lénifiante quand on a beaucoup lu Alice au pays des merveilles. C'est aussi un livre plein de rythme, plein de tonus, où on ne s'apesantit jamais. Donc j'espère avoir attrapé quelque chose de ce tonus et de cette belle énergie dans mon style.
Voilà, on imagine qu'elle a pu être inspirée aussi par le chapelier fou, Amélie Nothomb.
Ah bah bien sûr, c'est de là que vient sa passion des chapeaux, c'est ce côté doucement surréaliste, le nonsense de Lewis Carroll, une sorte d'absurde, mais poussé à l'extrême, c'est ça ce que l'on trouve surtout dans les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, et c'est pour ça aussi qu'on le lit enfant avec beaucoup de plaisir, mais adulte également.
Ah, puis quel voyage. Ah, oui. Les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, donc à relire sans modération. Merci beaucoup Nicolas, et puis tout à l'heure, vous êtes dans les starting blocks dans votre salon pour nous présenter La Voix est libre à 14h.
À tout à l'heure, ça marche.
Ok, quant à nous, on file au Kenya dans un tout petit instant, beaucoup moins sympathique que le lapin blanc. Des milliards de criquets sont en train de ravager la corne de l'Afrique. Eux, en plus du virus, ça fait beaucoup.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1,
Les carnets du monde.
Après la parenthèse littéraire de Nicolas Caro, pleine de surréalisme et de poésie, retour aux réalités. Nous filons sur le continent africain, confronté à une insécurité alimentaire croissante. Sophie Larmoyer.
Comme le monde entier, l'Afrique est concentrée sur la lutte contre le coronavirus et certains pays déjà allègent les mesures de confinement car celles-ci pèsent extrêmement lourd sur les populations qui pour la plupart dépendent de l'économie informelle. Beaucoup n'ont plus rien à manger s'ils ne sortent pas travailler, commercer. L'insécurité alimentaire, c'est un sujet qui dépasse largement le cadre de la pandémie de Covid-19. La Corne de l'Afrique en particulier fait face à une autre crise majeure, l'invasion de criquets pèlerins. On vous en a déjà parlé dans les carnets. Mais la situation s'aggrave. Ces insectes dévorent des centaines de milliers d'hectares de cultures depuis décembre dernier. Bonjour Charlotte Simonard.
Bonjour Sophie.
Vous êtes notre correspondante à Nairobi, au Kenya. Alors commençons peut-être par localiser ces criquets. Ils se sont attaqués à une surface géographique immense.
Oui, ils sont dans la grande région de la Corne de l'Afrique qui englobe environ 8 pays. Mais 3 pays sont particulièrement touchés, le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie. Mmh. Alors cette invasion de criquets, c'est la pire depuis plus de 25 ans et ça s'explique par deux facteurs. La chaleur combinée aux fortes pluies de la fin de l'année dernière jusqu'à février. À des pluies totalement inattendues à cette époque, censées correspondre à la saison sèche. Pour se reproduire, les criquets ont besoin d'un sol meuble, donc sablonneux, dans lequel les femelles peuvent y déposer leurs œufs. Et les pluies ont rendu ce sol pénétrable. Les criquets ont ainsi pu se démultiplier par 20 tous les 3 mois. Et aujourd'hui, ils se déplacent par milliards de milliards. Certains essaims atteignent la taille du Luxembourg.
Ah, ça fait peur. La lutte contre ces criquets dure depuis 5 mois maintenant et la pandémie du Covid-19 est venue se surajouter à la crise. Ça complique encore un peu plus la situation.
Bien sûr, et notamment les mesures de confinement prises par les différents pays. Ouais. La fermeture des frontières, par exemple, freine l'approvisionnement en insecticides, qui est le seul moyen pour venir à bout de ces insectes voraces. Alors pour l'heure, il n'y a pas encore de rupture de stock, mais les réserves sont au plus bas, notamment au Kenya, qui a frôlé la catastrophe début avril, avant d'être réapprovisionné en urgence.
Charlotte, pourquoi, malgré les insecticides que vous évoquez, les criquets pèlerins semblent-ils gagner du terrain dans la Corne de l'Afrique ?
Alors en fait, les premiers criquets ont pondu en début d'année et voilà donc leurs petits qui arrivent en force. Ce sont de nouveaux essaims, donc une deuxième vague de criquets qui s'annonce 20 fois plus importante que la précédente. Écoutez à ce sujet Cyril Ferrand, il est coordinateur des programmes de résilience en Afrique de l'Est pour la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture.
La deuxième vague est 20 fois plus importante et puis si ces criquets vont se reproduire d'ici un mois et demi, ils vont engendrer une nouvelle vague qui sera également 20 fois plus importante. Donc on pourrait avoir 400 fois plus de criquets si le contrôle n'était pas satisfaisant. Aujourd'hui, c'est clair qu'on a augmenté les moyens de lutte au sol et par air. La FAO a apporté 5 avions supplémentaires, des hélicoptères également qui sont en train d'arriver, un approvisionnement de pesticides supplémentaires. C'est un combat contre le temps parce qu'on est au début de la production agricole. Et donc, il faut faire en sorte qu'on arrive à limiter la population de ces criquets à un moment où les agriculteurs, les paysans vont planter.
Bon, on le comprend, une course contre la montre pour sauver à tout prix ces nouvelles cultures, pour éviter d'aggraver la crise alimentaire qui est déjà existante, Charlotte.
Oui, la Corne de l'Afrique enregistre déjà 20 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aujourd'hui. Alors en ce moment, les cultures de céréales commencent à émerger du sol. Ces jeunes pousses sont la nourriture favorite des criquets. Alors si un essaim se pose sur ces productions, il n'y aura tout simplement aucune récolte au mois de juin pour les agriculteurs. Mais il y a aussi les éleveurs qui seront victimes de cette invasion. Ils pourraient manquer de pâturage et donc de fourrage pour leur bétail. Qui dit moins de fourrage dit une faible production de lait animal et c'est pour cela qu'on s'attend également à des cas de malnutrition chez les moins de 5 ans. Alors la priorité absolue aujourd'hui pour venir en aide à ces populations, c'est combler le manque d'argent liquide. Écoutez à ce propos Steven Bourak, il est responsable régional du développement pour l'ONG Acted et il coordonne également l'alliance de plusieurs organisations pour lutter contre les criquets pèlerins.
Notre action principale sur le terrain réside dans la distribution d'argent liquide directement dans leurs poches pour qu'ils puissent faire les achats dont ils ont le plus besoin pour leur foyer. Et nous constatons clairement que leurs achats se concentrent sur la nourriture. Et cette tendance va s'accentuer dans les prochains mois alors que les criquets continuent à manger leur culture et donc leur nourriture, ce qui a un impact sur le marché.
Et conséquence de cette baisse de revenus, eh bien les populations commencent à vendre leur gagne-pain, c'est-à-dire leur bétail, hein, leur troupeau de chèvres, de vaches, de moutons, ce qui sur le long terme aggravera le taux de pauvreté dans la région.
Et pour faire face à la crise, Charlotte, les experts craignent de ne pas avoir les moyens de lutter contre les criquets dans un avenir proche.
Oui, c'est un effet indirect de la pandémie du Covid-19 et de la crise financière qu'elle entraîne, comme l'explique Cyril Ferrand de la FAO.
En début d'année, l'attention était vraiment sur les criquets pèlerins. Et heureusement, je dirais quelque part que la crise Covid-19 n'a pas démarré en même temps. On a eu une fenêtre de tir, on va dire, qui nous a permis de mobiliser des ressources. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'attention est clairement sur le coronavirus. Et pourtant, la crise des criquets pourrait nécessiter des fonds supplémentaires sur la deuxième moitié de l'année. Mais il n'est pas garanti qu'on ait l'attention de l'ensemble des partenaires sur le sujet.
Et sur le terrain, les spécialistes espèrent que l'invasion de criquets ralentit au mois de juin grâce à des conditions climatiques moins favorables à leur prolifération. Mais cette partie du continent africain n'est pas prête de se débarrasser du fléau. Des essaims devraient perdurer dans la région jusqu'à la fin de l'année.
400 fois plus de criquets si rien n'est fait, hein, disait tout à l'heure l'expert de la FAO. Merci beaucoup Charlotte pour toutes ces explications. On va poursuivre la conversation avec Elisabeth Beers, porte-parole du Programme Alimentaire Mondial qui est une agence de l'ONU. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous depuis Genève. Les criquets et le Covid-19, ce sont deux des facteurs qui aggravent aujourd'hui l'insécurité alimentaire sur le continent africain. Vous avez publié un rapport la semaine dernière sur les crises alimentaires dans le monde. Et selon les projections faites par vos experts, à cause de la pandémie du Covid-19, le nombre de personnes souffrant sévèrement de la faim pourrait doubler d'ici la fin de l'année, c'est ça ?
En effet, cette étude montre que d'ici la fin de l'année 2020, on pourrait avoir 265 millions de personnes qui souffrent de malnutrition aiguë et qui sont en fait au bord de la famine.
Concrètement, sur le terrain, je pense à l'Afrique de l'Est dont on vient de parler, la Corne de l'Afrique, là avec Charlotte Simona, il faut par exemple convaincre les gouvernements qui ont fermé leurs frontières à cause du virus de laisser passer les camions d'approvisionnement alimentaire.
Il est nécessaire et indispensable que la chaîne de distribution fonctionne. C'est ce que nous redoutons le plus. Parce que les mesures de restriction, les douanes, tout ce qui peut ralentir le passage des marchandises va provoquer justement un déséquilibre à l'intérieur du pays. Par exemple, à la frontière de l'Ouganda et du Kenya, là maintenant, les douanes prennent la température des chauffeurs, ce qui est tout à fait normal. Ouais. Mais on voit des queues de plusieurs kilomètres de camions et nous essayons, avec le gouvernement ougandais et kényan, de voir comment apporter un traitement spécial aux camions humanitaires. Ça, c'est essentiel.
Pour gagner du temps et de l'efficacité.
Pour gagner, en effet, du temps. Malheureusement, on a déjà un problème avec les avions commerciaux qui, normalement, transportent des passagers, mais toujours en même temps un peu de fret. Eh bien, ces vols n'existent plus.
Ah oui.
Donc, il faut continuer à approvisionner les pays. Et dans certains pays, notamment d'Afrique de l'Est, avec la saison des pluies, il est essentiel de prépositionner au plus vite la nourriture dans les endroits qui vont être les plus difficiles d'accès, parce qu'ensuite on ne pourra plus et seuls les hélicoptères pourront éventuellement acheminer des provisions. Les gens risquent plus de mourir de faim que de mourir en fait du Covid.
Il y a un autre terrain d'action prioritaire, j'imagine, Elisabeth Beers, ce sont les enfants, parce qu'habituellement, les écoles sont vraiment un lieu privilégié de lutte contre la sous-alimentation. Or, les écoles ont quasiment toutes fermées.
Dans le monde, en effet, les écoles ont fermé. Nous avons 370 millions d'écoliers qui ne vont plus à l'école, mais qui en même temps bénéficiaient de repas dans les cantines et de repas scolaires. Ces enfants-là n'ont plus rien.
Alors comment faites-vous ?
Nous organisons des rations à emporter que les enfants ou un adulte vient prendre à l'école, où nous organisons des points de distribution et avec, bien sûr, les rations qui sont généralement calculées pour une famille de 5 personnes. Donc, on essaye de continuer à apporter ce supplément de denrées alimentaires pour éviter qu'ensuite les enfants soient déscolarisés. C'est la grande crainte que nous avons, et notamment les filles, parce que la cantine scolaire fait que les parents envoient les enfants à l'école puisqu'ils reviennent avec souvent à manger pour toute la famille et également et notamment les filles.
C'est un défi logistique évidemment pour les agences de l'ONU pour porter assistance à ces personnes.
Bien sûr, nous transportons par tous les moyens la nourriture. Et pour cela, il faut un budget. Et le budget, il est de 350 millions de dollars uniquement pour tout ce qui est logistique, c'est-à-dire que nous allons affréter des avions, des hélicoptères, nous allons faire des ponts aériens, nous mettons en place des plateformes d'où le matériel notamment médical et où le personnel médical va pouvoir transiter et se rendre dans les pays, notamment africains également. Et en ce qui concerne la nourriture, c'est un budget encore plus important puisque actuellement il nous faut près de 2 milliards de dollars pour continuer à aider environ 100 millions de personnes actuellement en 2020.
C'est toujours difficile, on imagine, de lancer un appel aux dons aux États quand tous sont confrontés à une crise sanitaire comme c'est le cas en ce moment avec le Covid-19.
On peut leur dire simplement qu'il faut faire preuve de solidarité parce que sans solidarité, eh bien, une crise qui va se retrouver dans une partie du monde aura des répercussions beaucoup plus importantes bien et sûr. Beaucoup plus coûteuses sur l'Europe, par exemple, ou les pays en développement. Et il est nécessaire d'aider ces personnes à se nourrir décemment dans leur pays. C'est vraiment très important. Et cette solidarité, je pense que les bailleurs de fonds l'ont comprise, malgré l'augmentation de leurs propres budgets nationaux.
Merci beaucoup, Elisabeth Beers, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes porte-parole du PAM, le Programme Alimentaire Mondial, qui est une agence de l'ONU. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci à vous.
Et au revoir, Charlotte Simonard, depuis Nairobi. À bientôt.
À bientôt, Sophie.
À suivre, un coup de projecteur sur le Vietnam. Un premier cas de contamination en janvier et zéro mort officielle aujourd'hui. Pourquoi, comment ? On en parle dans un tout petit instant.
Europe 1, les carnets du monde.
Quelle est la bonne stratégie pour affronter le coronavirus ? La question évidemment intéresse le monde entier. Et parmi les pays où il y a très peu de cas, on trouve le Vietnam, Sophie Larmoyer.
Certains parlent carrément de petits miracles en observant la situation sanitaire au Vietnam. D'autres font remarquer que c'est sans doute le fruit d'une gestion de crise musclée dans ce pays dirigé par un régime communiste autoritaire. On va revenir sur cette hypothèse politique dans quelques minutes avec le politologue Bruno Tertrais. Mais regardons un peu quelle est la situation d'abord. Le Vietnam, pays de 96 millions d'habitants, compte moins de 304 contaminations et aucun décès si on en croit les autorités. Pourtant, ce voisin de la Chine avait eu un premier malade dès la fin du mois de janvier. Alors, quelle stratégie le Vietnam a-t-il adoptée ? Voici le témoignage de Bernard Ordonez. C'est un auditeur des carnets qui nous a écrit sur l'adresse mail de l'émission lescarnetsdumonde@europe1.fr. Il était en vacances au Vietnam fin février pour un mariage. Quand les frontières se sont fermées, il y est resté et nous raconte comment la lutte s'organise depuis.
Le Vietnam a fermé sa frontière le jour de son premier cas déclaré. 23 janvier, il l'a fermé avec la Chine, ensuite il l'a fermé vis-à-vis du Japon et de la Corée. Et ce sont des touristes ou des Vietnamiens qui revenaient, qui ont ramené encore du virus au Vietnam.
Alors ceux-là qui revenaient, ils étaient traités entre guillemets comment ? Qu'est-ce qui leur arrivait ?
Alors, ils étaient confinés pendant 14 jours, soit dans des casernes, des lycées ou des hôtels.
Expliquez-nous le système d'identification et de suivi des personnes qui sont contaminées. C'est très particulier.
Alors, ce qu'on appelle le F0, c'est la personne qui est contaminée. Et l'on va rechercher, ici je pense que c'est plutôt à la mano, artisanalement, que l'on fait l'enquête et l'on détermine, pendant les jours qui précèdent, quelles sont les personnes qui l'ont contacté. On appelle ces gens-là les F1. Et on fait de la même chose pour les personnes qui ont été en contact avec les F2.
Donc on cherche deux niveaux de contact,
exactement,
en tout cas.
Exactement. Mmh. Donc F0, il est traité, il est soigné. Mmh. Les F1, si un F1 s'avère positif, il devient F0. Mmh. Et ses F2 à lui deviennent F1 et sont confinés.
D'accord. Parce que quand on est F1, quand on a été en contact direct avec quelqu'un de contaminé, on est en quarantaine, obligatoirement.
Exact, oui, obligatoirement. Vous n'avez pas le choix.
Et vous êtes en quarantaine dans des centres organisés
dans
etc.
Dans des casernes. J'ai entendu que c'était plutôt rustique, mais le pays n'est pas très riche. et des collèges, voire hôtels, je crois. Voilà.
Et les F2, donc le deuxième niveau de contact, eux, ils ne sont pas en quarantaine. Eux, ils sont un peu sous surveillance, quoi.
Alors, ils sont isolés chez eux. Et on leur demande...
Ah, quand même.
Oui, 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 oui. Et on leur demande de rester dans une chambre où personne ne rentre. Et eux, de ne pas en sortir.
Combien de personnes ont été mises en quarantaine comme ça, dans des casernes, des collèges, etc., depuis le début ?
80 000 personnes. Mais toute la famille participe à cet isolement. Pour deux raisons. D'abord, pour se sauvegarder eux-mêmes. Et deux, il y a ici un sens de la communauté extrêmement fort. Mmh. Ils ne le font pas uniquement pour soi, ils le font aussi pour la communauté. Il suffit de voir quelle est la proportion de masques. Tout le monde porte le masque.
Et Bernard, voilà. Pour identifier ces F0, F1, F2, pour leur dire il faut faire ci, il faut faire ça, venez vous mettre en quarantaine là et tout, il faut énormément de monde, il faut du personnel.
Exactement.
Il faut,
Exactement.
Comment ça se passe ? Qui fait ça ?
C'est la police. C'est la police et il y a un service parallèle à la police ici, comme dans tous les pays communistes, d'un suivi civique ou civil ou qui travaille là-dessus aussi.
Ce qu'on appelle les comités de quartier en Chine,
oui, c'est
des
ça.
Sortes de...
Exactement. Oui, c'est ça.
Qui sont affiliés au Parti communiste et puis...
Exactement. D'accord. Mais vous savez, ils sont aussi relativement nombreux.
Au Vietnam, Bernard, par ailleurs, tout le monde est d'une certaine manière, sans application, paradoxalement, géolocalisé. On sait où est chacun, toujours.
À l'hôtel et moi, quand je loue un appartement ici, première chose qu'on me demande, c'est mon passeport. Et ce passeport, dans les 2-3 heures, il est déjà à la police. Quand je quitte un hôtel, on me demande systématiquement où est-ce que je vais ensuite.
On sait toujours où vous êtes, quoi.
Exactement.
Il y a un système de contrôle de la population, de toute façon, au Vietnam. On sait que c'est un gouvernement plutôt autoritaire. Mais vous avez l'impression que c'est aussi dans la culture des Vietnamiens. Il y a un civisme qui fait que... Ils participent bien volontairement à ce système-là, c'est ça ?
Oui, oui, oui. Ils privilégient la communauté. Alors que nous, notre culture est plutôt de privilégier la liberté individuelle. Ah. Et donc, ils se soumettent facilement à ces recherches. C'est une des explications de la différence de traitement que nous avons du virus. Aussi parce que l'infrastructure communiste existante y parvient. Je pense que la police est rentrée dans chacun d'eux. Chacun a intériorisé les règles du gouvernement, toutes les règles. Il y a aussi, j'imagine, de la peur aussi.
Il y a eu un confinement assez bref, hein, 1er avril pour 15 jours, qui a été un peu prolongé dans les deux grosses villes du Vietnam.
Oui. Je qualifierais ce confinement de par précaution.
On peut sortir, mais il faut rester raisonnable, quoi, en gros. Hein.
Oui, c'est ça. Une anecdote. Un jour, ma compagne m'a dit que le veilleur de nuit avait demandé à ce que je sorte moins souvent. C'est vrai que j'avais encore une attitude un peu occidentale. Bon, j'ai un peu haussé des épaules et elle m'a dit, attention, fais attention, si tu continues, il sera amené à en parler à la propriétaire. Mmh. Et si la propriétaire l'apprend, elle serait amenée à te demander de partir. Et que dans ce système-là, je pense aussi, si la propriétaire accepte de garder quelqu'un comme ça, c'est elle qui peut avoir des problèmes.
C'est aussi comme ça que s'effectue le contrôle, finalement, c'est par la société.
Oui, tout à fait.
Vous pensez que le Vietnam aussi a pu réagir aussi vite parce qu'il a l'expérience d'épidémies précédentes ?
Sans aucun doute. Tous les pays qui sont en train de réussir actuellement, pas tous, mais la grande majorité, ont connu le SRAS et la grippe aviaire et s'y sont préparés. Je suis persuadé qu'à la prochaine épidémie, on réemploiera les mêmes méthodes que celles employées ici. Un confinement immédiat. Entre guillemets sauvage, c'est-à-dire 80 000 personnes pendant 14 jours, mais bien plus agréable que 66 millions confinés pendant 2 mois.
Voilà, témoignage de Bernard qui observe la lutte contre le virus depuis le Vietnam et où il sent donc que la société a intériorisé le contrôle et la nécessité de respecter les règles. Bonjour Bruno Tertrais.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste des relations internationales. Et vous avez co-signé il y a quelques jours sur le site de l'Institut Montaigne, avec l'ancien ambassadeur Michel Duclos, une tribune qui interpelle. Vous posez cette question à l'occasion de la lutte contre le Covid-19. Les autoritaires vont-ils l'emporter sur les démocraties ? En gros, est-ce qu'il y a certains régimes qui vont mieux arriver que d'autres à lutter contre le virus ? Alors, on vient de parler du Vietnam et son régime communiste inamovible. VUB qui fait partie de ces pays que vous appelez les nouveaux autoritaires, des hommes forts, mais qui recouvrent d'ailleurs des réalités assez différentes, hein.
Oui, bien sûr, c'est un label très large pour parler à la fois de régimes traditionnellement autoritaires, comme le Vietnam justement, ou encore la Chine, mais aussi de dirigeants populistes, d'hommes forts, puisque ce sont tous des hommes qui dirigent parfois des démocraties. Donc c'est un label très large, mais effectivement le Vietnam en fait partie. Alors, sont-ils mieux armés ou moins bien armés que les démocraties pour lutter contre le coronavirus? C'est assez difficile de le dire, parce que d'abord, les statistiques provenant des pays autoritaires ne sont pas toujours très fiables. Et, par ailleurs, on voit que dans les démocraties, bah, finalement, le confinement, les restrictions aux libertés individuelles, ça ne se passe pas si mal que ça, sauf dans certaines parties des États-Unis, par exemple. Donc, moi, il me paraît pas du tout évident de me dire, surtout à la suite de la petite étude que nous avons faite, que les régimes autoritaires font mieux que les démocraties.
C'est vrai qu'on s'est posé la question, notamment à propos de la Chine, hein, qui sort du tunnel et qui redémarre son économie quand toute l'Europe est en pleine crise. Vous avez repéré quand même des facteurs de succès et puis des facteurs de mauvaise gestion qui pour le coup, ne suivent pas des lignes forcément liées au régime. Donc, parmi les facteurs de succès, il y a notamment ceux qui ont déjà affronté des pandémies.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que lorsque l'on parle du succès des pays d'Asie de l'Est, il faut mesurer ce succès, parce que tous les pays d'Asie de l'Est n'ont pas réagi aussi bien. Mais c'est vrai que ces pays-là, je dirais qu'ils ont encore moins d'excuses que les pays d'Europe ou d'Amérique s'ils gèrent mal, parce que eux ont connu les pandémies grippales et d'autres types de pandémies beaucoup plus fortement, en général, que les pays occidentaux. Donc c'est vrai que quand on voit la réussite de la Corée du Sud, de Taïwan, de la région de Hong Kong, ou même de la Chine, on se dit très bien, mais j'allais dire qu'ils auraient peut-être dû être encore mieux préparés. C'est vrai qu'il y a aussi dans ces pays une tradition du port du masque, par exemple, qui est liée, qui est plus ancienne d'ailleurs que c'est l'expérience des pandémies grippales. Donc tous ces facteurs jouent, il y a des facteurs culturels, il y a le moment où on a évidemment repéré les premiers cas, et bref, on ne peut pas dire que les autoritaires font mieux que les démocraties, ni que l'inverse, même si les démocraties ont quand même un avantage, c'est la transparence dans l'information, ou plutôt la plus grande difficulté de cacher des informations et des chiffres.
Parmi les facteurs de mauvaise gestion que vous repérez, vous mettez pas mal des populistes qui finalement ont mal réagi, ou ont réagi avec déni dans un premier temps face à cette épidémie. Je pense à la fois à Donald Trump, Jair Bolsonaro au Brésil, ou même Boris Johnson en Grande-Bretagne.
Oui, alors autant les autoritaires peuvent parfois correctement gérer la crise, autant les populistes, et les populistes on les voit autant en démocratie qu'en régime autoritaire, alors là, eux sont particulièrement mal préparés et ont mal préparé leur pays, parce que les populistes, ce sont des gens qui en général ne croient pas beaucoup à la science, qui ne font pas confiance à la technocratie, aux administrations, aux bureaucraties, et ils ont tendance à faire un petit peu les fiers à bras, et donc on l'a vu avec Trump, avec Johnson, à dire finalement, et aussi avec Bolsonaro d'ailleurs, finalement tout ça n'est pas forcément très important. Donc je dirais que les populistes, là pour le coup, ont une vraie moins-value d'une certaine manière pour gérer ce type de crise.
Est-ce que cette crise va laisser des traces et chez ces populistes-là qui ont mal géré au moins au début, et chez les régimes plus autoritaires, et chez certains qui en ont profité peut-être pour renforcer leur pouvoir?
Alors, tout dépendra, in fine, on ne sait pas encore, de la manière dont ces pays seront perçus, d'abord par leurs propres opinions, mais aussi par l'extérieur, seront perçus la gestion de crise. Et là, franchement, je crois que c'est un petit peu tôt pour le dire, même si je crois que la Chine, que l'on dit très souvent gagnante par avance, n'en sortira pas forcément très renforcée. Ça sera même peut-être le contraire du point de vue de son image. Son image sera extrêmement dégradée, y compris à cause de la désinformation à laquelle elle procède, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.
En tout cas, on comprend que la ligne de fracture régime autoritaire-démocratie n'est pas pertinente. Elle est un peu simpliste, comme souvent, non ?
Tout à fait. Ça ne sera pas forcément la grille de lecture qui permettra de dire à la fin, voilà, les pays qui ont mieux géré ou à l'inverse moins bien géré cette crise du coronavirus.
Merci beaucoup, Bruno Tertret, pour ce décryptage.
Merci
à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Europe 1, les carnets du monde.
C'est le moment, avant de refermer les carnets du monde, de faire un petit tour en Autistan avec Joseph Chevanec, Sophie Larmoyer.
Il est philosophe et autiste Asperger, saltimbanque de l'autisme, comme il se décrit lui-même, et surtout voyageur infatigable, évidemment confiné en ce moment. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Un confinement en Belgique fait de nombreuses et longues balades à vélo, je crois savoir. Oui. Ce qui vous a inspiré cette semaine, Joseph, c'est cette annonce faite par Édouard Philippe à partir du début du déconfinement le 11 mai en France. Les déplacements seront géographiquement limités.
Oui Sophie, et quand on y songe un peu, il s'agit en fait d'un phénomène assez commun dans le monde, hein, des frontières intérieures avec divers systèmes de passeports ou de permis plus ou moins restrictifs. Et il y a des pays tout à fait occidentaux et modernes qui ont ce système depuis toujours ou presque.
Par exemple ?
Bah, la Nouvelle-Zélande, les deux grandes îles, l'île Nord et l'île Sud, n'ont aucune restriction. Mais il y a les îles Stewart, tout à fait au sud, ou alors Chatham, à l'est, qui sont restreintes sur le plan du nombre de moyens de transport, parce qu'en gros, il n'y a qu'une dizaine de maisons sur chacune, et on veut que ça reste en l'état. Mais il y a aussi les autres îles du pays, qui, quant à elles, sont strictement interdites. Il faut un permis spécial, quasiment impossible à obtenir. Hein. C'est pour préserver, évidemment, la nature. Les Néo-Zélandais aiment à rêvasser de ces îles où ils ne mettront sans doute jamais les pieds. Île Campbell, île Macquarie, etc. Moi-même, j'aimais lire les récits des navigateurs de l'ancien temps qui y avaient échoué. Hein. Et d'une certaine façon, du fait justement de l'interdit, on finit par trouver enviable le sort de ces malheureux marins, car ils ont pu découvrir des lieux pourtant dans le même pays, mais où on ne peut pas aller.
Vous avez d'autres exemples d'endroits interdits comme ça ?
Oui, je repense par exemple à ces moments avec mon amie séchelloise Lynn où elle était pensive. Le fait que certaines îles de son propre pays, à savoir par exemple l'île Aldabra, qui fait partie des Seychelles, que ce soit interdit pour elle, ça lui pesait. Elle avait émis le vœu qu'un jour ses enfants puissent y avoir accès. Elle voulait même lancer une pétition pour faciliter l'accès aux permis spéciaux pour les citoyens séchellois, comme on dit en créole.
Je crois qu'il y a des coraux magnifiques et que c'est un environnement extrêmement fragile, quoi. Voilà. Bon, c'est pour la bonne cause environnementale, en l'occurrence.
Mais parfois, il y a d'autres motifs. Évidemment, c'est en URSS ou ex-URSS que le système de passeport intérieur a été poussé à sa perfection. Mmh. Et d'ailleurs, ce système est parfois toujours en vigueur. Deux fois, j'ai passé l'été à Yakoutsk, en Sibérie, une ville perdue dans l'immensité, au milieu des forêts sibériennes infinies. Alors certes, il est à peu près impossible de se déplacer en Sibérie pour des raisons physiques ou matérielles. Mais il y a aussi une autre raison. Il faut des permis difficiles, voire parfois extrêmement difficiles à obtenir. Par exemple, j'avais essayé de me renseigner quant à la possibilité de sortir de la ville de Yakoutsk pour visiter les mines de diamants à Mirny. Négatif, strictement interdit. On m'a d'ailleurs fait comprendre qu'il vaudrait mieux que je cesse de poser ces questions. Un jour, en plein cours à l'université de Yakoutsk, une jeune prof avait dit qu'elle avait réussi à avoir le permis pour aller à Tik. C'est sur les rivages de l'océan glacial arctique. Je n'oublierai pas l'extraordinaire mouvement de jalousie, toutes les têtes qui se tournent et le sourire de la prof qui s'était mise à raconter ses aventures. Avoir un tel permis, un tel privilège, c'est un peu comme de dire que l'on a un jet privé en Occident.
Et parfois, Joseph, il n'est même plus question de permis. On s'interdit à soi-même d'aller à certains endroits. Hein.
Oui, aux îles Svalbard, par exemple. C'est tout à fait au nord de la Norvège, tout près du pôle. Là-bas, il n'y a qu'une seule et unique bourgade, Longyearbyen. Quiconque veut quitter la bourgade doit détenir, non pas un permis, mais un fusil. C'est un passeport pour la vie, à cause, bien sûr, des ours polaires. Je ne pense pas qu'un éventuel contrevenant se fasse arrêter et punir par la police, d'ailleurs. N'a pas vraiment. C'est plutôt l'habitant dominant, à savoir l'ours, qui prend directement en charge les visiteurs imprudents. Bref, il se pourrait que nous ayons besoin d'une stricte limitation des mouvements, justement pour avoir encore plus envie de voyager.
Ben oui, c'est vrai, ça démange quand on n'a pas le droit d'aller quelque part. Hein. Mais on voyage autrement, en attendant de pouvoir bouger, et notamment grâce à vous. Merci beaucoup, Joseph, à dimanche prochain.
Merci, à tantôt.
Et voilà, c'est l'heure de refermer les carnets du monde. Merci à chacun de vous de nous avoir accompagnés aujourd'hui encore dans nos vadrouilles. N'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse de l'émission lescarnetsdumonde@europe1.fr pour nous raconter votre confinement ailleurs dans le monde, ce que vous vivez si vous vivez à l'étranger. Merci à Marc Fréjean qui a réalisé cette émission, à Florence Gimala qui m'a aidé à la préparer. Et on passe le témoin à Nicolas Caro qui est prêt, qui nous a préparé une belle émission littéraire. Nicolas, quel est le programme ?
Alors moi, je vais passer un coup de fil à Yann Kefelek et en Belgique aussi à Adeline Dieudonné, l'auteur de La Vraie Vie. Je vais prendre de leurs nouvelles, savoir comment ils vivent leur confinement. Et puis, nous revisiterons la bibliothèque hyper poétique de François Morel.
Ah, j'ai hâte, la voix est libre, c'est dans quelques minutes. Merci Nicolas, à tout de suite. Quant à nous, on vous prépare de nouvelles aventures pour la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien surtout.